moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, bonjour les grandes oreilles, comme chaque semaine, le mercredi à 11h30 et rediff le dimanche à 12h30, vous retrouvez ma chronique, ma balade haute en couleurs et en images, fais-moi une place. Viens, vous chatouillez les tympans, chers auditeurs, et cette semaine, je vous dévoile l'histoire fabuleuse d'un invité surprise. Il vit dans le Grand Nord alsacien, au cœur d'une nature luxuriante, parmi les châteaux forts et les chemins sablonnés, entourés de pins et de feuillis. En 1976, dans une autre vie, il fut le joaillier de la maroquinerie de luxe. Il façonnait avec sa compagne des parures de bureaux, des sacs précieux, en puisant son inspiration dans la forêt. Et depuis une dizaine d'années, Christian Debatte a fait un choix radical. Il s'est consacré à la musique et au festival de jazz, au gré du jazz, à la Petite Pierre, devenu un rendez-vous incontournable, reconnu au-delà de nos frontières alsaciennes. Salut Christian Debatte, très heureux de te retrouver dans notre studio. Tu es venu de très loin, des Vosges du Nord, là où brille l'étoile polaire.
Bonjour André.
Ça me fait plaisir de te recevoir ici.
De très loin, n'exagérons rien.
Bah, Vissembourg, la Petite Pierre, c'est quand même pas à côté. Oh,
c'est juste une petite heure, même pas.
Une petite heure de voiture. C'est là-bas, tu vois des fois l'étoile polaire, elle brille des fois plus qu'ailleurs.
Disons qu'il n'y a pas de pollution avec les lumières de ma ville, donc on a une meilleure vision des étoiles. Ça, c'est un des avantages des Vosges du Nord.
Ouais, c'est beau là-bas. C'est vrai que c'est un endroit que j'affectionne, que j'aime beaucoup, les Vosges du Nord. Et je crois que les gens s'arrêtent toujours à la hauteur de Haguenau et vont pas plus loin, je crois. Qu'est-ce que t'en penses?
C'est encore différent. C'est plutôt à l'ouest de Haguenau. Disons qu'on est dans les Vosges du Nord. Ça, c'est un territoire de forêt, exclusivement de pratiquement de feuillus, très peu de sapins, un petit peu de pins.
De pins, ouais, des pins.
Mais la forêt est caractérisée par les chênes et les hêtres, qui d'ailleurs souffrent énormément en ce moment à cause de la
canicule.
La canicule, oui, il y a au sommet des collines, si tu veux, les chênes, la cime des chênes se décharne, enfin, il n'y a plus de feuilles, donc ça, c'est un mauvais signe, quoi.
Il a enlevé ses feuilles, il les a fait laisser partir pour...
Oui, je pense qu'il manque d'eau.
Il manque d'eau, oui. Tu penses qu'ils ont beaucoup souffert avec cette chaleur, tu dis à l'instant.
Oui, je pense, oui, ouais. ça fait quelques années que ça a commencé. Oui. Et maintenant, ça simplifie, quoi.
Alors, tu es venu aussi me voir parce que tu as eu plusieurs vies, des vies très trépidantes. Parle-moi de ta première vie. Parle-moi d'abord, t'es natif d'où? Tu viens de quel endroit? Tu es né à l'ombre des Pyrénées, je crois.
Ouais, je suis un Gascon.
C'est un joli mot, ouais.
Ouais, je suis un Gascon.
Et c'est pour ça que ton nom de famille s'appelle Debatte. Oui, on Debatte. Prononce le T derrière.
C'est la prononciation. Ouais. Dans le sud-ouest, toutes les lettres sont faites pour être prononcées, me disait mon institutrice.
c'est joliment dit, ouais. Et alors, parle-moi un peu de ton enfance. C'est une enfance comment là-bas? Une enfance rurale?
Je suis né. D'abord, le Gers, je suis né en 48 à Mirande. Mm-hmm. Et le Gers était le département le plus rural en France à cette époque-là. Dans les années 50, il y avait un seul feu rouge à Auch.
Waouh!
Donc, moi, j'ai connu une enfance dans une ferme. Et j'ai connu l'arrivée d'un cuillère à gaz, du frigo. Mais avant, il n'y avait rien de tout cela.
Tes parents étaient des terriens, ils travaillaient la terre.
Mes parents étaient agriculteurs. Donc, ils avaient une petite propriété. Et en 1966, j'ai fait partie de ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, à peu près tous les enfants du village, on devait être une trentaine à l'école. Non, 28, je crois, il y en a 4-5 qui sont restés, tous les autres sont partis. Les meilleurs étaient instituteurs, les moins bons étaient chez gendarmes mobiles.
Ah oui, d'accord.
Et entre, il y avait les concours de la poste, des contributions indirectes, des choses comme ça.
Et c'était quoi tes rêves d'enfant, Christian, quand tu étais Gascon, dans le Gers? Tu rêvais à quoi?
Alors là, c'est compliqué. Je saurais te répondre. Je ne saurais pas te répondre quels étaient mes rêves. Oui, je ne saurais pas te répondre quels étaient mes rêves.
Tu n'avais pas de rêve? Tu ne rêvais pas?
Bah, non, si, je devais rêver, évidemment, mais... oui, je ne saurais pas te répondre.
Ouais. Et tu avais des jolis jeux d'enfants avec d'autres enfants? Tu jouais à Ivanhoe ou des choses comme ça dans les forêts là-bas, non?
Non, non, mais là-bas, on jouait au rugby.
Ah oui, c'est vrai. On
jouait nécessairement au rugby.
D'accord. Et tu aidais un peu tes parents dans le travail des champs?
Oui, oui, j'ai connu les moissonneuses-batteuses, j'ai connu les tracteurs, j'ai connu l'arrivée des premiers tracteurs.
Waouh!
Donc j'ai connu le labour avec les vaches. Je me souviens toujours mon père qui labourait avec une paire de bœufs et une paire de vaches. Le grand-père qui était devant et puis mon père qui était derrière pour le Brabant. Wow. Tourner le Brabant au bout du champ. Donc j'ai connu ça. J'ai connu l'arrivée des premiers tracteurs.
Des tracteurs Ferguson, des gris là, qui étaient d'un gris militaire un peu.
Mon père avait acheté un pony, un petit tracteur rouge comme ça.
Ah oui, bah oui.
Et je me souviens toujours, il avait payé 4500 francs.
Waouh!
Et il l'a revendu 10 ans après, même prix. Mais à propos de Ferguson, mon père ne me laissait pas monter sur le tracteur. D'abord, il était un peu étroit. Par contre, j'avais chez mon oncle, et chez mon oncle, il avait Ferguson, un gris, comme tu dis, mais pas du tout militaire, un bon gris.
Oui, mais c'était un gris, je crois que c'était la couleur, il l'avait eu de l'armée à l'époque, d'après ce que j'avais lu.
Je ne sais pas.
Il les avait peints en tout cas, en gris.
Le gris, c'était un gris souris. Donc,
oui, je me souviens de ça.
J'ai appris à conduire sur ce tracteur. J'ai beaucoup, j'avais souvent en vacances chez cet oncle qui était mon parrain, et j'ai appris à conduire le tracteur. J'ai fauché, j'ai fait tout un tas de travaux avec ce tracteur. J'étais autonome d'ailleurs sur ce tracteur.
Ah. Oui. Et alors, dans les années 68, tu avais à peine 20 ans, c'était la révolte même dans le Gers. On parlait souvent des mousquetaires gascons.
Non. En 68, j'étais à Kaiserslautern à l'armée.
D'accord.
À Kaiserslautern à l'armée, on nous avait dit qu'il faut peut-être se préparer à aller à Paris par rapport aux manifestations.
Waouh.
Et là, c'était un souci parce qu'avec quelques-uns, on avait décidé qu'on n'irait pas.
Bah oui. Tu pouvais refuser?
Non, mais on ne savait pas. En fait, on n'a pas été demandé, le régiment n'a pas été demandé. J'étais dans le régiment de cuirassés, le 5e cuir. Et donc,
à Kaiserslautern.
À Kaiserslautern, j'ai fait 16 mois là-bas.
Waouh, 16 mois, c'était beaucoup ça.
Hein. Je confirme.
Ah ouais, c'est long ça. Ouais. Ouais, et puis maintenant tu parles l'allemand couramment?
Comme une vache espagnole. Je ne parle pas l'allemand couramment parce que j'ai rencontré une amie là-bas qui parlait très bien le français, donc je n'avais pas besoin de parler l'allemand.
Ah oui, donc c'est bien, tu as pu t'arranger là-bas pour parler avec les gens.
D'ailleurs, une de mes raisons de ma venue à Strasbourg.
De ta venue, oui. C'est l'amour qui t'a ramené là, en Alsace.
Si on peut dire comme ça.
Ouais. Ah oui. Et alors, parle-moi un peu de tes années pas de def, chemise à fleurs. C'était comment ces années,
Moi, je n'ai pas trop connu... Je peux pas dire que j'ai connu cette époque de cette façon-là, quoi.
Ouais.
D'abord, à 18 ans, j'ai commencé à travailler dans l'administration des finances.
Mm-hmm.
Et après, il y a eu l'armée. Et après l'armée, j'étais pas très intéressé par mon travail, quoi.
L'administration, c'est quand même d'une tristesse, c'est triste.
Je confirme.
Hein, c'était quand même triste, ouais.
Mais par contre, ce qu'il y a eu de bien, c'est que j'ai rencontré un collègue qui m'a initié au jazz. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de connaître la plupart des musiciens de jazz qui ont débuté dans les années 1913 et puis jusqu'aux années 40, 50, 60, et etc. quoi.
Oui, c'est ça.
Donc j'ai eu une culture de jazz en écoutant des vinyles.
D'accord. Et pour revenir un petit peu en arrière, est-ce que dans ces années-là, chemise à fleurs et pattes d'éléphant, tu écoutais quel genre de musique? Est-ce qu'on peut mettre une musiquette? On va voir si tu écoutais ça.
Non.
Vas-y voir Thomas. Tu écoutais par exemple du Polnareff?
Non, mais d'abord, j'avais pas de... à l'époque, j'avais pas les moyens d'avoir...
une radio.
De quoi écouter, quoi.
Ah ouais.
Et la radio, on avait la radio, mais c'était... ça passait.
T'écoutais pas ce genre de musique, quoi.
Non, c'est pas spécialement, non.
Ouais. Et tu écoutais quoi, alors, du jazz, déjà, sur du vinyle?
Dans mes années, quand j'avais 20 ans, 21, 22 ans, j'ai beaucoup écouté du jazz, notamment avec... avec le biais de cet ami qui m'a présenté, qui m'a fait écouter des grands, les grands jazzmen, Parker, Monk, Coltrane, Archie Shepp aussi. Non, pas Archie Shepp. Si, Archie Shepp, c'était un peu plus tard.
On en parlera plus tard parce que tu es devenu ami.
L'année 73.
Ah, ouais.
Non, Archie Shepp, alors à l'époque, quand j'étais à Strasbourg aussi, on faisait partie de... On a vécu quelques années en communauté citadine. Et c'était l'époque où on a quand même pas mal rêvé de changer la vie.
C'était le souhait de tout le monde. Hein. C'était de, dans ces années-là, on avait tous envie d'aller de faire des choses intéressantes. Et pas... C'est pour ça que tu as quitté les finances aussi, parce que tu t'y ennuyais. Quoi. Et alors, tu as eu cette bonne idée de quitter Mirante, parce qu'il y avait, c'était l'Exode, tu es parti de là-bas pour aller...
J'ai passé un concours et j'ai été muté en Savoie.
En Savoie, oui. Et comment tu es venu au cuir? Comment tu as eu cette idée de... Parce que ta compagne vendait des bijoux, je crois, hein, sur les marchés.
Mais ma compagne, disons, à cette époque où il y avait un regain d'intérêt pour l'artisanat, et sous toutes ses formes. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient de la bijouterie, qui faisaient des bijoux, qui faisaient des objets en cuir, qui faisaient du tissage, qui avaient comme ça énormément. Il y a eu une époque avec énormément d'artisans dans les années 70, 71. Et ma compagne était secrétaire de direction dans une société. Elle faisait de la peinture sur soie et puis elle est tombée amoureuse du cuir par le biais d'un ami qui lui a appris à faire des bijoux assez primitifs d'ailleurs, cuir et sertissage d'agate.
D'agate. Écoute, on va juste écouter un petit extrait de musique de cuir. Tu vas voir, Souchon, il dit des choses intéressantes sur le cuir. Vas-y voir Thomas. C'est un petit clin d'œil hein, de Souchon, c'est rigolo, c'est pour parler un peu de cuir. Et en fait, ce cuir, c'est vrai que tu t'es fait un nom prestigieux dans le cuir avec ta compagne. Vous êtes fait connaître un peu partout. C'est quoi cette belle aventure à la petite pierre?
On a débuté de façon très primitive le cuir. Et on n'a pas cessé de progresser tant au niveau de ce qui est outillage que des formes. Donc, ce qui était très intéressant, c'était le côté design, et le fait de faire et de trouver des objets qui soient de plus en plus finis, de plus en plus perfectionnés. Donc, ça nous a pris une dizaine d'années pour mettre des objets au point qui soient de niveau relativement élevé.
Des couleurs chatoyantes
tout
aussi,
en étant autodidacte.
Ouais.
Après, ma compagne avait un sens des couleurs et donc... on a fait fabriquer nos propres couleurs. Et là, actuellement, dans l'atelier qui existe toujours, les couleurs ont été choisies par nous, c'est-à-dire par ma compagne et maintenant par la personne qui continue l'atelier. Donc, on a des couleurs qui nous sont propres, c'est-à-dire qu'on prenait sur le registre des couleurs, le Pantone, et on disait, voilà, je veux cette teinte-là. Ce qui nous a permis d'avoir une particularité, une spécialité dans les objets que nous fabriquons.
Donc, et tu faisais où le tannage de ces couleurs tu, qui alors, c'est qui tu le faisais? Ça venait du Maroc
Non, le Maroc, soyons sérieux, c'est...
Non, mais j'y connais rien, hein, pour ça que je te pose la question. C'est ce que je te taquine un peu, c'est ce que tu as compris. Hein.
C'est ce que je vois que tu ne connaissais pas. Pour m'être promené dans mes tanneries au Maroc, à Marrakech, mon Dieu, quelle horreur.
Ouais. Non, moi, j'ai filmé ça, je me souviens comment c'était. Ouais.
On a, à un moment donné, on a fait un tout petit peu de couleurs pour avoir une certaine autonomie, parce que quand nous avons commencé, il n'y avait pas trop de couleurs au niveau du cuir. Après, c'est les tanneurs qui ont fait les couleurs qu'on leur demandait. C'est-à-dire, parce que c'est, le cuir est quand même une activité qui est liée à l'industrie et où il faut une main-d'œuvre et des machines très spécialisées pour que ce soit, ça tienne dans le temps. Donc, au Maroc, c'est très primitif.
Très touristique, quoi. C'est pour les touristes, ça.
Non, mais ça a un côté, ça existait. Ouais, mais les tannages ne sont pas parfaits, parce qu'ils ont une certaine odeur, des choses comme ça. Et pour cause, c'est très primitif, mais ça permettait de faire en sorte que les peaux puissent être conservées et être utilisées pour la vie de tous les jours. Donc, c'était aussi intéressant de cette façon-là. Mais, si vous voulez, en Europe, les tanneries les meilleures sont en France, sont en Italie et sont très perfectionnées. Dans le cuir, tu as deux sortes de cuir. Tu as un tannage au chrome et tu as un tannage végétal. Le tannage végétal, c'est un tannage où les peaux trempent dans des fosses avec des peaux de chêne, des écorces de chêne, des mimosas, des quebrachos, des choses comme ça. Et tu as deux sortes de tannages, quoi, des tannages qui sont plus longs, qui peuvent durer 3 mois, 6 mois, etc. Donc c'est toute la spécificité. Ce qui entoure le cuir est très compliqué, en fait.
Et après, ce cuir, il vieillit bien, il ne s'abîme pas, c'est quelque chose que tu peux garder très longtemps.
Oui, en fonction des tannages, des différents tannages. Ça peut être tannage végétaux, permettre de conserver plus longtemps le cuir, mais encore que les tannages aussi au chrome sont excellents.
Je me souviens de toi au marché de Noël, vous étiez chaque année au marché de Noël, toi et ta compagne, et vous vendiez beaucoup de choses, surtout des choses pour le bureau aussi, je me souviens, des petits godets
marché de Noël,
pour mettre de stylos, oui.
Marché de Noël,
des sous-mains.
On vendait, en fait, toute la partie bureau est plutôt une partie qui est vendue en boutique et qui est revendue en boutique. Au marché de Noël, c'était plutôt notre côté maroquinier, c'est-à-dire la fabrication de sacs. Il y a des sacs, par exemple, qui ont été fabriqués dans les années 10 ans après, c'est-à-dire dans les années 90, qui seraient encore d'actualité, tant par le design que par la couleur, par l'inventivité du modèle. Ouais. D'ailleurs, je pense qu'il est possible que dans les 50 ans de la société, d'Atelier de la Forêt, on puisse rééditer ces sacs. Mmh. C'est une idée avec Noémie...
Qui a repris ta maison.
Oui, qui a repris, qui a repris l'atelier.
Et alors, vous étiez dans plusieurs boutiques en France, hein, plus d'une cinquantaine de boutiques vendaient ton matériel, les sacs, même au Canada, en Allemagne.
Le Bon Marché revend nos objets en cuir depuis des années. On est au Luxembourg, dans une très très belle boutique entre Montblanc et Faber-Castell, ce qui est quand même pas si mal que ça. Et on a différentes boutiques en Belgique. Et en France, dans les plus grandes villes, il y a forcément une boutique où ils revendent des objets de l'atelier. Donc, dans les objets de l'atelier, on s'est spécialisé dans le bureau. On a par exemple des petits meubles dans lesquels, pour casser les stylos, des choses comme ça.
Ah oui, je me souviens de ça.
Bois et cuir. Ouais. On a les conférenciers, les sous-mains, les pots à crayon, les carnets. Carnet de voyage, je ne sais pas, il y a à peu près 60, 70 modèles différents.
Ah ouais, je sais. Ouais. Moi, j'étais amoureux de tes objets, je trouvais ça tellement beau, c'était magnifique, c'est vrai que c'était chatoyant, moi j'aimais bien les couleurs. Mais venons un petit peu, Christian, à une autre vie, cette autre vie trépidante, parce que tu as arrêté un peu le cuir, mais maintenant tu t'intéresses au jazz depuis une dizaine d'années, tu es à La Petite Pierre et tu as un organisateur, le responsable de cette association. On écoute un bout de musique avec ton ami Archie Shep. On va l'écouter un petit peu au piano avec Jason Moran.
Jason Moran.
Je le prononce mal. Vas-y voir, Thomas, s'il te plaît. Thank you. Alors dis-moi, Christian, c'est quelqu'un que tu connais bien, Archichep. Tu as des bonnes relations, tu es amical avec lui, je crois. Il vient depuis longtemps à La Petite Pierre.
Il est venu trois fois à La Petite Pierre. Et la dernière fois, c'était avec Tidiane. La fois d'avant, c'était avec Joaquin Kuhn. Et la première fois, il est venu avec son groupe, où ils étaient 14 musiciens.
Wow.
Avec, il nous a produit Attica, le fameux disque qu'il avait sorti dans, je ne sais plus dans quelles années. C'était l'époque où il y a eu la révolte dans une prison, la prison d'Attica, où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de prisonniers qui ont été tués par les policiers. Donc, il avait fait ce morceau très intense, et il l'a rejoué à La Petite Pierre. Ma connaissance avec... La première fois que j'ai vu Archichep, c'était dans les années 73 à Château-Vallon, dans un concert mémorable, qui d'ailleurs, on peut retrouver d'ailleurs sur Internet. Et je me souviens toujours, il avait fait éclairer les spectateurs. Et à cette époque, il y avait aussi sur scène, il y avait une partie de la scène qui était occupée par des spectateurs assis, mais ce qu'on ne verrait plus, plus du tout maintenant. Et nous étions descendus de Strasbourg en 4L pour aller assister à ce concert.
Waouh, que de souvenirs, ouais.
Archichep, à l'époque, était représentant de la contre-culture et c'était quelqu'un qui nous était important, qui nous était proche dans les idées et la façon de voir le monde.
Il parle couramment le français aussi,
je crois. Il parle bien le français, on va dire. Donc, j'ai sympathisé avec lui quand il est venu la première fois au sujet d'Attica. Et puis, j'étais à son anniversaire des 80 ans à Metz, il y a quelques années en arrière. Et on s'est revus quand il est venu avec Joaquin Kuhn. Mmh. Alors moi, je m'occupe de lui quand il est sur place. Donc je me conduis.
C'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un de
absolument
gentil, de chaleureux.
Ouais, absolument.
Et il aime La Petite Pierre, il aime l'endroit, ouais. Ses pierres en grès, tout ça.
Non,
ça.
Il aime bien venir.
Ouais.
Et la dernière année, quand il est venu avec Cheikh Tidiane, il était quand même diminué de point de vue physique. Mais j'aime beaucoup son travail avec le sax. Il a une voix extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui s'accompagne de musiciens doués, qui les met en avant. Par exemple, Marion Rampal, qui a beaucoup travaillé avec Marion Rampal, qui est en train de devenir célèbre maintenant, qui fait un travail très intéressant, une voix magnifique. Donc voilà, c'est un monde... Vraiment un monde de jazz.
Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, la musique de jazz? C'est quoi, effectivement, quand on parle jazz, c'est quoi comme mots qui te viennent à l'idée?
La musique de jazz, le jazz pour moi, c'est d'abord le jazz à 120 ans, en gros. C'est-à-dire qu'en 120 ans, c'est devenu une musique extrêmement complexe, une musique qui est très intense. Alors, ce qui est le plus important, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est d'abord la notion de swing, c'est-à-dire cette espèce de swing que je trouve, c'est une espèce de pulsion comme ça qui me prend physiquement et qui est pour moi quelque chose d'important à vivre. Mais par contre, ce que je trouve essentiel dans cette musique, c'est pas une musique de pouvoir. C'est comme la musique classique qui a accompagné et dominant. C'est une musique qui vient de dominer. Et ça a été une musique qui a permis une survie psychique, me disait aussi Shep.
Tu parles de l'esclavage, tu parles un peu des chants de contourne quand ils ont commencé. C'est ce qui les a fait sortir un peu de ce malheur, de cette tristesse.
C'est-à-dire, je ne sais pas si ça les a fait sortir, mais en tout cas, ça a produit... quelque chose d'absolument profond et de désespéré et qui a permis la survie psychique de ces personnes-là. Mmh. Et pour moi, ça caractérise le jazz, même si maintenant ça part dans des tas de directions différentes et qu'on n'a pas toujours ce côté ne vient pas à l'esprit systématiquement. Mais moi, j'ai commencé dans cette idée-là, en approchant ces musiques-là, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que la domination des humains sur les autres humains, je trouve que c'est quelque chose de...
Parle-moi un petit peu de ce gré du jazz à la Petite Pierre. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est une place, c'est connu, reconnu. C'est quelque chose d'important, d'incontournable. Les gens viennent, c'est un franc succès.
Ouais. En fait, il y a eu beaucoup, je crois que beaucoup de passion, beaucoup de persévérance ont accompagné ce festival. D'abord, c'était un festival à milieu rural, ce qui pour moi est très important, venant de la campagne et venant d'endroits où il n'y a pas forcément la culture, où il y a une sorte de culture, mais c'est une autre culture quoi, que d'écouter du jazz. Il y a beaucoup de passion et aussi, comme je disais, de la persévérance. Après, le festival est quand même fragile et donc chaque année, on se débrouille pour que ça continue.
Mais ça continue depuis 22 ans
oui, c'est ça.
Et cette année, c'était un taux de remplissage de 80%.
Oui, cette année, c'était un très magnifique résultat, mais...
Malgré la canicule,
Non, c'est grâce aussi à la canicule que ça a très bien marché.
Vous n'avez pas mis des brunissateurs, je crois, pour gens, non ?
Il y en avait, oui, on a fait ça, mais disons que... Je ne sais plus qui me disait, mais si ça a si bien marché, c'est à cause de la canicule.
Ah oui.
Je dis non, ça a si bien marché, c'est qu'il y a eu 21 festivals et maintenant c'est le 22e, donc on a eu cette chance d'être là au 22e et de profiter de l'occasion d'un temps magnifique, de ne pas être obligé de délocaliser le festival à la salle polyvalente et de rester dans ce lieu magique. Qui est la place Aérienne, sous les tilleuls.
Et comment c'est l'acoustique là-bas ? Qu'est-ce que disent les jazzmen ?
Il y a une très très bonne acoustique et puis notre chargé du son, Laguna, fait un très très bon son. Il y a une particularité, c'est qu'il y a un très grand silence, il y a un grand respect de la musique, il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas de bruit qui viennent perturber le concert. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on est en plein air, on a la tête dans les étoiles, et on est au pied du château avec des artistes magnifiques. Donc, il n'y a pas de meilleurs endroits pour écouter du jazz. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de meilleurs endroits.
Ben écoute, c'est un très, très beau mot de fin. Je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Je suis très content de t'avoir accueilli. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. Et en fait, vous êtes déjà en train de préparer l'année prochaine ?
Pour le moment, on se repose un petit peu et on va voir ça d'ici un mois, un mois et demi, on va recommencer à travailler là-dessus.
Et on t'invitera prochainement pour parler de 2026. Hein. Merci beaucoup, monsieur Christian Desbattes, d'être venu jusqu'à chez nous.
Merci de ton accueil, c'était un plaisir pour moi de venir te rendre visite et de parler du festival.
Merci beaucoup.
Merci aussi à toi.
Voilà. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté.